Il est 15h30 passé, nous retrouvons les lumières toutes scientifiques de Pauline et Nicolas dans Il était une science.
Amis du jour, bonjour. Amis du soir. Ah mais non, ça marche pas. C'est vrai qu'on est en direct aujourd'hui.
Il était une science.
Amis du jour, bonjour donc. Nous sommes cette fois, et pour la première fois, en direct. Tout spécialement pour les 5 ans de Transistor, et c'est avec émotion et enthousiasme que Nicolas et moi reprenons Il était une science. 5e numéro au total, premier de l'année. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pauline. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent pour cette journée anniversaire. Voilà, on revient pour, on l'espère, votre plus grande joie. Et comme, petit 1, on tient nos promesses, petit 2, le thème colle bien à celui de la journée, on vous propose de parler aujourd'hui de l'évolution et même de l'évolution des théories de l'évolution. Bienvenue dans Il était une science-ception.
Effectivement Nicolas, donc comme nous vous l'avions promis voilà plusieurs mois, nous allons enfin faire ce numéro sur l'évolution qui se prête bien donc à la journée toute spéciale anniversaire de Transistor. Comme d'habitude, nous allons procéder méthodiquement, c'est-à-dire que nous allons tout d'abord revenir sur l'histoire des théories de l'évolution, puisque ce qui caractérise peut-être les théories scientifiques et notamment les théories de l'évolution, bah, c'est leur propre évolution. Puis Nicolas se fera un plaisir de vous présenter la théorie dans toute sa scientificité et plus les aspects techniques. Et enfin, nous aborderons la question des enjeux éthiques et des aspects culturels. Alors, il faut savoir qu'il y a une définition actuelle de l'évolution.
Oui, oui.
Elle est dite synthétique. Alors, cette théorie synthétique est dite synthétique parce qu'en fait, elle intègre à la théorie darwinienne, celle que la plupart des gens connaissent maintenant, la théorie dite de l'hérédité mendélienne et la génétique des populations. Voilà. C'est une synthèse qui a été menée au cours des années 30 et 40 par différents scientifiques anglo-saxons et le nom même de théorie synthétique a été donné par Julian Huxley en 42. Que peut-on nous dire justement de ce hiatus entre d'un côté la définition darwinienne et la définition actuelle
synthétique ? Justement, ce qui est important, il est important de se rendre compte que la vision communément admise de l'évolution actuellement, c'est encore celle de Darwin, alors qu'il y a pas mal de différences entre celle-ci et la réalité. La plus grosse erreur qu'on fait en général, c'est de dire qu'une espèce descend d'une autre ou qu'une espèce est plus évoluée qu'une autre. Par exemple, quand on dit que l'homme descend du singe...
Et pas du cochon.
L'homme descend du singe, mais du cochon aussi, on le dit. Mais on dit qu'une communauté de singes, un jour, a décidé de descendre de son arbre et de se mettre à marcher, etc. etc. Mais en fait... On ne peut pas dire ça parce que le singe, c'est l'espèce actuelle, l'espèce contemporaine qu'on trouve encore dans les forêts. On ne peut pas dire que les animaux dont on descend, c'était des singes. Si ça se trouve, on peut imaginer qu'ils ressemblaient plus à des hommes et que c'est les singes qui sont restés dans les arbres qui se sont transformés jusqu'à
leur état actuel. Que c'est les singes qui descendent de l'homme.
Exactement. Bon, ce n'est pas le cas pour des tas de raisons, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que le singe et l'homme sont en fait des cousins. Des espèces modernes, contemporaines, qui descendent d'un même ancêtre commun, qui n'est pas un singe. Du coup, toutes les espèces vivantes actuellement, elles sont au même niveau dans l'évolution du point de vue du temps. T'as évidemment des différences structurelles, des espèces plus complexes que d'autres. Par exemple, l'homme est beaucoup plus complexe qu'une bactérie, mais ce sont que des espèces cousines qui se sont plus ou moins transformées à partir d'un ancêtre commun. Et Darwin, le problème, c'est qu'il avait compris que les espèces évoluaient, mais il classait les espèces sur une échelle et pas un arbre généalogique. Il considérait l'homme tout en haut, les singes, les mammifères en dessous, etc., jusqu'aux organismes les moins évolués.
Oui, donc il y avait presque un jugement de valeur, une hiérarchie du moins au plus complexe.
Un anthropocentrisme plutôt.
D'accord. Mais donc tu parlais finalement de cousinage et non pas de descendance. Mais alors pourquoi à partir d'un même ancêtre commun, y aurait-il des cousins qui évoluent différemment ?
En fait, tout ça, c'est lié à l'adaptation d'une espèce à son milieu. Le premier à l'avoir compris, ça a été Lamarck, qui est le père fondateur de la biologie. Il est un peu plus vieux que Darwin. Et il s'est rendu compte que toutes les espèces avaient des caractéristiques qui étaient adaptées à l'environnement. Donc il a deviné que les espèces évoluaient au fil du temps pour s'adapter. On appelle ça la théorie transformiste de Lamarck, parce qu'il considérait que l'évolution d'une espèce se faisait afin de répondre à ses besoins. Par exemple, une girafe a un long cou parce qu'elle a besoin d'accéder aux branches hautes pour trouver sa nourriture.
D'accord, donc c'était de l'adaptationnisme en fait.
Voilà, c'est ça complètement. Mais quand on connaît les principes de Darwin, on se dit, bon, bah, Lamarck, il a pas tout compris. Mais en fait, ils n'ont pas contribué au même niveau. Lamarck, il a vraiment posé la base de la science des êtres vivants, la biologie, et comprendre comment les êtres vivants évoluaient dans leur milieu. C'était vraiment de l'observation. Darwin, lui, il a voulu faire une généalogie de l'histoire du vivant. Alors son grand apport à Darwin, qui a aussi une grande importance dans une vision moderne du monde, on va le voir après, c'est l'idée de la sélection naturelle. Darwin a compris que l'évolution, elle ne se faisait pas à dessein, comme Lamarck le pensait, mais elle se fait d'une manière totalement aléatoire et aveugle. Prenons par exemple l'exemple de la bipédie de l'homme. Lamarck aurait dit, bah oui, l'Australopithèque a besoin de se mettre debout pour s'adapter à l'environnement, les herbes hautes, etc. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est pas ça, c'est que dans une communauté d'Australopithèque, il y a parfois un nouvel individu qui a la capacité de se tenir debout plus longtemps. Bah alors, par exemple, des pieds plus différents des mains, un bassin plus adapté, etc. Et donc, il va mieux voir ses prédateurs et il va survivre plus longtemps. Et ses caractéristiques spéciales, il va pouvoir les transmettre par un mécanisme de sélection naturelle.
Oui, parce que lui a survécu, en fait. Voilà. Mais du coup, finalement, la survie, c'est la conséquence d'un hasard génétique.
Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un brassage génétique, un hasard, une apparition de mutation. Et au fil des générations, les individus de la population vont se trouver sélectionnés pour leur aptitude à se tenir droit, etc. Et l'espèce, en plusieurs sens, centaines, voire milliers d'années, l'espèce va s'adapter à son milieu.
D'accord, donc le propos de Darwin n'est pas du tout de répondre à une question pourquoi, en fait. Il constate des hasards génétiques qui donnent lieu à une sélection, enfin une survie en conséquence. Mais alors justement, on a parlé de génétique. C'est un terme qu'il faudrait peut-être définir, enfin, sur lequel revenir. Est-ce qu'ils ont, Darwin ou Lamarck, pensé en termes de génétique?
Alors non, pas du tout. Et justement, c'est ça qui manquait beaucoup à Darwin. Il avait vraiment aucune idée du mécanisme qui permettait un changement d'apparaître. Et bon, on va le voir, c'est lié à la génétique. Par contre, un contemporain de Darwin qui s'est intéressé de très près à l'hérédité, c'est Mendel, un botaniste autrichien. Il a étudié sur plusieurs générations des populations de petits pois, une caractéristique de couleur, de forme de gousses, etc. Et il a compris comme ça tous les mécanismes de la génétique avec des paires de gènes, des remélanges de paires de gènes lors d'une fécondation, etc. Et malheureusement, ces travaux sont un peu perdus par manque d'intérêt de la communauté scientifique. Et puis, bon, de toute façon, on ne va pas faire de lien entre la génétique et l'évolution pendant plusieurs décennies. Darwin et Mendel ont eu la même idée, enfin, ont eu leurs idées en même temps, pardon, mais on ne va pas fusionner les deux branches des sciences naturelles.
Ils s'ignorent superbement.
Voilà. Bah justement, pour l'anecdote, Mendel a été assez ignoré par la communauté et un peu plus tard, au début du XXe siècle, il y a trois généticiens donc, qui ont redécouvert indépendamment ces travaux et pour éviter d'entrer en conflit par rapport à la paternité de l'idée, ils ont dit que c'était Mendel qui avait trouvé avant E3 cette idée-là.
Alors,
très longtemps après, on a compris comment la génétique fonctionnait au niveau physique, chimique, avec la molécule d'ADN. Chaque caractère correspond à un gène, c'est-à-dire une suite de molécules prédéfinies. C'est les fameuses lettres A, C, G, T qui correspondent chacune à une molécule particulière. Et comme on a tous nos chromosomes en double, on a deux versions de chaque gène pour chaque caractère et il y en a quelques-uns qui sont dominants. Par exemple, pour la couleur des cheveux, le caractère dominant entre brun et blond, c'est brun qui l'emporte. Du coup, si j'ai un gène brun, un gène blond, je vais être brun. Mes deux parents qui sont bruns en ayant les deux gènes peuvent transmettre, puisqu'ils transmettent chacun la moitié de leur génotype à la descendance, ils peuvent avoir très bien un enfant blond s'ils donnent chacun leur gène blond.
D'accord.
Et donc c'est comme ça, par le brassage génétique, qu'on a des nouveautés qui apparaissent dans une lignée.
D'accord. Oui, puis il y a le terme gène récessif aussi.
Oui, voilà, c'est exactement ça, le gène blond revient au fil des générations.
D'accord.
Voilà. Il y a aussi ça, et il y a aussi les mutations directes, les erreurs mécaniques, en fait, au niveau de la reproduction de l'ADN, etc., qui peuvent introduire des changements dans le génotype.
Et donner les lieux aux X-Men, par exemple, bien sûr.
Oui, alors ça, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est la diversité génétique d'une population qui fournit l'élément qui manquait à Darwin pour expliquer la diversité des individus d'une espèce. Ensuite, il peut y avoir des erreurs au niveau chimique qui conduisent à des mutations et des changements au sein de l'espèce.
We'll be right back.
Alors c'était Muse à l'antenne Transistor avec Unnatural Selection.
Oui, donc on reste dans le ton, n'est-ce pas ? Mais justement, donc pour en revenir à la question de la postérité de la théorie de l'évolution selon Darwin, ce qui est intéressant, c'est de voir justement le transfert un petit peu de la théorie scientifique telle qu'elle a été mise au point par Darwin dans des aspects plus, on va dire, du domaine de la culture et des idées. Donc en fait, ce dont comment je souhaite vous parler maintenant, c'est la mémétique. Alors la mémétique, c'est un terme
qui... Qu'est-ce que c'est que ça ?
Oui, ça t'intrigue. Hein. C'est un terme qui a été importé directement à partir du mot génétique et qui en fait utilise le concept de mème pour étudier les évolutions de la culture selon une approche darwinienne.
Hein. Des mèmes comme sur Internet, tu veux dire ?
Non. Alors, les mèmes, M-E, accent grave, M-E-S.
Je préfère ça.
Comment ?
Je préfère ça.
Oui, je pense aussi. Et en fait, il faut savoir que c'est un mot qui a donc été formé en français dans les années 80, mais qui originellement a été mis au point par Richard Dawkins dans son livre Le gène égoïste en 1976. Donc en fait, c'est importé du mot anglais mime, M-E-M-E, et qui est fondé sur les termes de mimesis, qui veut dire imitation, mais également memory, pour la mémoire, la capacité de retenir, et aussi un jeu de mots avec mème, M-E accent circonflexe, M-E, avec cette idée d'identité, d'absence de différence, etc. Et alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que la mémétique applique à la culture humaine des concepts et des modèles qui sont directement issus de la théorie de l'évolution selon Darwin, et elle essaie d'expliquer des phénomènes culturels tels que par exemple sur Internet, la propagation des rumeurs ou des modes, les phénomènes d'adhésion à des mouvements culturels, idéologiques, politiques, religieux, et également les phénomènes de sélection des idées pratiqués par exemple par l'autocensure, la prise de décision ou ce qu'on appelle encore les charges cognitives.
D'accord, donc par adaptation finalement à l'environnement mental de la société dans laquelle ces idées
Exactement.
Se développent.
Exactement, et en fait du coup on retrouve aussi cette idée par exemple peut-être de même récessif si j'ose dire, avec des théories ou des idées culturelles qui restent latentes et qui ne trouvent pas vraiment à s'expliciter, à s'exprimer à un moment, mais qui vont se transmettre par certains individus, peu nombreux, mais qui vont quand même trouver une descendance et qui dans un contexte propice vont trouver à se réaffirmer et ainsi ressurgir. Et donc en fait c'est intéressant. Alors après évidemment on a beaucoup critiqué cette idée de mémétique. Alors il faut savoir que il y a quand même, enfin que c'est ça, enfin ça désigne quand même quelque chose d'assez, enfin comment dire, enfin d'assez sérieux, puisque on a créé en 2003 une société française de mémétique, oui, par exemple. C'est critiqué parce qu'on a l'impression qu'en fait ça ne fait jamais que transposer cette idée de sélection d'évolution en fait dans une approche étendue de la théorie darwinienne à la culture
et
par analogie.
Plus, oui, en plus il y a des limites parce que par exemple on va pas retrouver les idées de reproduction et de sélection par la descendance. On va pas avoir de croisement entre idées, des fusions de gènes comme ça.
En fait, après, il y a quand même, par exemple, cette idée de dérive mémétique avec des croisements entre personnes qui, justement, des groupes culturels qui vont avoir des idées semblables mais un peu différentes, qui vont trouver finalement à les mixer et ainsi proposer l'union de leurs théories différentes à la base, et via cette union former une synthèse qui va trouver à se propager via des descendants quelconques, enfin des disciples finalement. Mais on voit bien toutes les limite de ça, c'est parce que finalement c'est quelque chose qui est très analogique comme démarche, hein, de transposer cette idée génétique au domaine de la culture. Donc ça c'est une grosse limite quand même de la mémétique.
De la mémétique, d'accord.
Tout à fait.
Mais alors justement, restons sur l'évolution des idées et parlons-en, Pauline. Cette théorie de l'évolution selon Darwin, bien sûr, elle a pris la place de la conception judéo-chrétienne de création du monde et donc des espèces par un dieu créateur. Alors évidemment, l'évolution et la sélection naturelle, comme tout en science, ce sont des théories empiriques. Quel que soit le nombre de vérifications expérimentales qu'on puisse faire, on ne pourra que se persuader que la théorie reflète vraiment la réalité. On ne pourra jamais vraiment le prouver. Du coup, et particulièrement aux États-Unis, des gens veulent qu'on considère le créationnisme comme une théorie scientifique, concurrente de celle de l'évolution.
D'accord.
Vu d'ici, ça paraît un peu ridicule, mais les créationnistes ont un argumentaire très difficile à défaire, parce qu'ils vont considérer que leur idée est recevable. Pourquoi ? Ils disent oui, bah voilà, la communauté scientifique refuse nos idées parce qu'elles ne répondent pas aux critères de la méthode scientifique. Mais on considère qu'on peut avoir des idées en dehors de la méthode scientifique, qu'on peut. Enfin, finalement, ce qu'ils disent, c'est qu'on peut faire des sciences hors du cadre de la science.
Oui, et donc là, c'est. En fait, je dirais que c'est même pire. Ils s'opposent carrément à la démarche scientifique.
Voilà, c'est
en fait.
Ça. Et donc, c'est un peu un sophisme de dire on a le droit de dire ce qu'on veut tant qu'on. Oui, on n'accepte pas les règles finalement.
Et surtout, c'est que tu vas me dire si je me trompe, mais il récupère aussi une forme d'idée du complot, c'est-à-dire Dieu non seulement a créé le monde en 7 jours, etc., mais il a mis au point tout un tas de choses de manière à fausser
tous ces pièges,
les scientifiques.
Voilà, les fossiles, le rayonnement fossile, la datation des couches géologiques, tout ça, c'est des choses mises en place selon eux par Dieu pour nous tromper dans notre démarche scientifique et prouver notre foi ou tout ça.
Mais alors du coup, comment outre le créationnisme, est-ce qu'il n'y a pas d'autres c'est les deux grosses théories qui s'opposent finalement.
Oui, alors c'est les deux grosses théories, mais justement il y a des problèmes aux États-Unis parce que il y a des gouvernements locaux, des gouvernements d'État qui veulent enseigner le créationnisme comme théorie scientifique concurrente en fait. Alors qu'on l'a vu, l'hypothèse du dessin intelligent, en fait, qui a plus à voir avec la foi qu'avec la science, n'est pas une théorie scientifique. Et ça, même ses défenseurs l'assument complètement. Alors, est-ce que tu connais l'église du monstre en spaghetti volant ?
Alors oui, il faut savoir que j'ai découvert ça récemment. Enfin, on a essayé de me convertir.
Ah, c'est
bien ça. Ouais, j'ai discuté parce que l'œcuménisme des nouilles, moi, ça m'allait pas. Je voulais faire un culte ramen. Bon, je suis pas sûre d'avoir été entendue. Mais on appelle ça le pastafarisme.
Exactement.
Je crois.
Alors en fait, c'est un certain Bobby Anderson, qui est un physicien, donc quelqu'un de bien, qui a écrit une lettre au gouvernement d'un État où on avait décidé d'enseigner le créationnisme comme théorie concurrente, en disant que lui, il croyait l'existence d'un monstre en spaghetti volant qui avait créé le monde en 5 jours. Le vendredi, c'est le jour saint, le jour férié, etc. Et donc, il voulait que sa croyance, ou plutôt sa théorie scientifique, soit enseignée comme troisième théorie concurrente. Et son hypothèse centrale, c'est non pas celle d'un dessin intelligent, mais d'un dessin inintelligent, c'est-à-dire que le monde et la façon dont il a été créé n'est qu'une vaste fumisterie et que le monstre en spaghetti volant était simplement bourré et à créer l'univers. Et donc, il a associé à tout cet argumentaire humoristique, finalement, toute une réflexion autour de la méthode scientifique, parce que il met en évidence des corrélations, des choses vraiment vraiment hilarantes, mais il arrive à nous faire prendre conscience que la méthode scientifique a ses défauts et surtout que le créationnisme ne répond pas du tout aux attentes d'une méthode scientifique. Alors quand on lit son livre, L'Évangile du monstre en spaghetti volant, je vous conseille, il est lisible gratuitement sur Internet, finalement, les idées en faveur de la thèse du monstre en spaghetti volant qu'on lit dedans sont beaucoup plus crédibles que celles des créationnistes et presque aussi convaincantes que celles de l'évolutionnisme, en fait, ce qui est un peu un tour de force. Alors, vous avez reconnu la bande originale du film Bienvenue à Gattaca, parce qu'on va continuer dans les dérives, mais maintenant, à la place des dérives anti-évolutionnistes, on va parler des dérives de l'évolutionnisme.
Pro-évolutionniste.
Voilà, c'est ça, engendré par l'idée darwinienne de sélection naturelle.
Alors, tout à fait, donc vous avez reconnu disions-nous, donc la musique de Bienvenue à Gattaca, qui est un film américain d'anticipation réalisé par Andrew Niccol et sorti en 97, tout de même. Et justement, ce film est intéressant parce qu'il met vraiment en relief tous les aspects problématiques aussi de la théorie de l'évolution telle que la comprennent la majorité des gens, qui consiste à croire que la société humaine va de façon, intentionnelle, sélectionner les gènes les meilleurs de manière à produire les meilleurs individus.
Oui, parce que finalement, il y a une question qui se pose actuellement, c'est finalement dans une société comme la nôtre, qui va donc pas opérer un mécanisme de sélection naturelle, puisqu'on est en dehors de la nature si jamais elle existe, et donc on va perdre finalement cette force de l'espèce qui vient de sa confrontation directe avec l'environnement.
Tout à fait. Et puis aussi, comment cette idée d'intentionnalité, et finalement là on retrouve la question du dessin intelligent, puisque comment on avait l'impression, on a beaucoup l'impression avec la théorie de l'évolution que forcément on vise la reproduction de mêmes gènes, oui, qui seraient non seulement les meilleurs, mais qui seraient tous les meilleurs et donc identiques en partie.
C'est en fait ça le gros problème de l'eugénisme, en fait, qui est le thème central de Bienvenue à Gattaca. Il y a on prend à contre-pied l'idée de Darwin, de la sélection naturelle et de l'évolution, de l'adaptation à l'environnement. Parce que finalement, ce qui fait la force d'une espèce dans un environnement naturel, c'est sa capacité, c'est sa diversité génétique, c'est sa capacité à s'adapter à des nouveaux environnements et des nouvelles conditions.
Oui,
c'est le changement on se confronte plus au changement qu'à la difficulté de l'environnement naturel. Et donc dans une société eugéniste, où on sélectionnerait des traits de caractère particuliers, mais à tout bouleversement de l'environnement, qu'il soit naturel ou sociétal, on se retrouverait avec une espèce pauvre génétiquement et on ne pourrait pas faire face finalement.
Oui, parce qu'elle aurait un patrimoine génétique finalement très commun, très proche, et elle n'aurait pas ce caractère multiple, hétéroclite, qui permet de répondre à des contraintes environnementales elles-mêmes diverses et surtout hasardeuses en fait.
Voilà, donc ça c'est l'erreur en fait de l'eugénisme en dehors du côté finalement anti-humaniste, de ces idées.
Mais en fait, ce que j'ai bien aimé aussi dans le film Bienvenue à Gattaca, c'est que certes, il parle de l'eugénisme, mais à la fois en tant que pratique sociale, telle que aussi historiquement elle a été pratiquée. Hein, on pense évidemment au Lebensborn sous le régime nazi et à toutes ces pratiques scientifiques visant à produire l'espèce la meilleure, enfin l'espèce humaine la meilleure. Mais également, ce film met en relief, disons, la façon qu'ont les humains et les individus, les familles elles-mêmes, de vouloir le meilleur enfant, la meilleure descendance. Et donc, par exemple, on a dans ce film le héros qui a un frère qui, lui, a été mis au point artificiellement avec la méthode génétique de valorisation des meilleurs gènes, alors que lui-même est imparfait. C'est-à-dire a été mis au point naturellement. Et là, en fait, on voit bien, outre le drame familial et personnel, on voit bien aussi le fait que c'est des individus qui veulent le meilleur pour, oui, pour leur descendance, mmh, etc. Et cette espèce d'incapacité de plus en plus des humains à supporter l'imperfection. Ce qui est problématique, non seulement d'un point de vue scientifique, quand on disait la réactivité aux contraintes environnementales, la préservation de la multiplicité des gènes, etc. Ce qui est problématique, c'est cette incapacité à se mettre, j'arrive même plus à trouver mes termes, mais à supporter le hasard. Voilà, c'est
oui,
ça.
Oui, voilà, c'est ça. Ce qui fait la différence finalement entre nature et société, un petit peu, c'est le passage de l'espèce à l'individu et à l'importance de l'individu.
Tout à fait. Ce qui est intéressant également, dans ce que tu mets en relief à travers les dérives des théories évolutionnistes, c'est aussi peut-être dans la société actuelle la problématique d'une forme d'adaptationnisme, ouais, c'est-à-dire que quand on pense au darwinisme social, ouais, à
l'importance de l'évolution dans le quotidien,
s'adapter aux contraintes, notamment je pense dans le monde du travail, s'adapter à un tas de choses, on a une espèce de dérive adaptationniste,
oui,
qui est importée dans le champ du social, et c'est problématique parce que non seulement ça contraint les individus, mais ça vise à nous faire croire qu'il faut pour survivre absolument se mettre au diapason, voilà, alors qu'en réalité il faut préserver justement cette...
Et changer tout le temps l'environnement, voilà, pour toujours avoir finalement une possibilité de lutter contre le changement, alors que finalement le progrès n'est pas forcément un changement radical qui va contre nous.
Tout à fait, voilà.
Bon, c'est la fin de cette émission. On espère que vous avez pris du plaisir à écouter nos voix et à comprendre tout sur la ou les théorie de l'évolution. On espère également vous retrouver bientôt sur les ondes de Transistor. Et en attendant, passez une bonne fin d'après-midi avec les Gones.
Merci. Il est 16h à l'horloge du studio. Nous retrouvons tout de suite Thomas pour le Flash Info. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, rebonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mardi 2 décembre, l'Assemblée nationale va se prononcer sur le sujet de la reconnaissance d'un État palestinien. Le vote aura lieu d'ici un quart d'heure à 16h15. Sauf surprise, cette reconnaissance devrait être votée, mais sans les voix de la droite. Rappelons qu'il ne s'agit que d'une résolution non contraignante, c'est-à-dire qu'à travers ce texte, il n'y a qu'une invitation faite par le Parlement au gouvernement de reconnaître un État palestinien. Un texte identique sera examiné le 11 décembre au Sénat. Toujours en France, c'est aujourd'hui que s'ouvrent les assises de l'économie de la mer et du littoral à Nantes. Pour l'occasion, le Premier ministre fait le déplacement et sa visite risque d'être chahutée avec rien moins que 7 rassemblements de mécontents, au premier rang desquels les pêcheurs inquiets par les quotas européens. Mais à Nantes, Manuel Valls s'est voulu rassurant sur le sujet. Les mécontents, il y en a aussi à Hong Kong, c'est la révolution des parapluies. Enfin, c'était la révolution des parapluies. Les militants pro-démocratie se divisent. Quant à la forme de leur action, après les heurts de dimanche soir et la répression policière de lundi, les 3 fondateurs d'Occupy Central, principal mouvement de cette opposition populaire, viennent d'annoncer qu'ils allaient se rendre à la police mercredi et ont appelé les manifestants à évacuer les sites qu'ils occupent depuis plus de 2 mois. Ils veulent ainsi montrer qu'ils respectent l'état de droit quand le gouvernement, lui, affiche un visage répressif. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela et des voix s'élèvent pour continuer la mobilisation. Alors si le conflit se complexifie à Hong Kong, vous l'entendez, en Ukraine en revanche, il semble s'apaiser. Le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes de la région de Lugansk ont conclu un cessez-le-feu total sur la ligne de front. Il rentrera en vigueur à partir du 5 décembre. La décision daterait du samedi 29 novembre, mais elle n'a été officialisée que ce matin. Autre bonne nouvelle pour terminer, économique cette fois-ci, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a rencontré lundi son homologue indien. Au menu des discussions, la question des rafales et, petit miracle, ils se sont mis d'accord pour surmonter leurs différends en vue de la finalisation d'un contrat estimé à 12 milliards d'euros portant sur la vente de 126 rafales. Et s'il aboutissait, Marien, il s'agirait du premier contrat à l'exportation pour les rafales, dont la date de lancement, c'était 1989. Miracle, je disais.
Merci Thomas. Nous sommes le 2 décembre, je vous le rappelle, chers auditeurs, tout arrive. Bon anniversaire, Transistor.
Joyeux anniversaire, Transistor. Tu es maintenant un beau bébé de 5 ans et j'espère que tu vas encore grandir et encore faire de belles émissions.
2 décembre 2009, 2 décembre 2014, 5 ans de diffusion pour Transistor. J'en espère au moins 5 de plus, évidemment. Et de plus en plus de directs, j'espère aussi, pour varier les plaisirs et changer notre vision de la radio. Donc pour tout ça, très bon anniversaire à Transistor.
Joyeux anniversaire à Transistor.
À l'instant, les voix d'Emmanuel Patry, Fabien Paquet et Pauline Muil. Venez entendre ce qu'elles ont à dire de l'aventure Transistor à partir de demain dans un documentaire anniversaire, toujours sur transistor.fr.